Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Aujourd'hui, nous sommes à Sorèze, au pied de la Montagne Noire, dans le Tarn. C'est là qu'en 754, Pépin d'Aquitaine fondait une abbaye bénédictine, Notre-Dame de la Sagne. Au cours des siècles, elle sera pillée, détruite, rasée et reconstruite. L'abbaye, tour à tour séminaire, brillante école militaire sous Louis XVI, tout son nom d'abbaye-école, collège de renommée internationale sous l'impulsion du père Lacordaire, est aujourd'hui pôle d'excellence tant dans le domaine culturel que patrimonial ou spirituel. Festivals, musique des Lumières, expositions et colloques vont revivre depuis quelques années et selon les mots de Marie-Odile Munier, religieuse bénédictine et archiviste de l'abbaye école, l'intelligence est la mémoire d'un lieu. Je vous propose de la rejoindre. Elle nous attend sur la place du village, tout près de la fontaine, à quelques pas de l'abbaye école qui en 754, au moment de sa construction, n'était pas encore une école.
On suppose qu'à partir de 754, des moines sont venus s'installer à Sorèze. Sorèze n'était encore même pas un village puisque les habitants étaient sur la colline de Bernicot. Mais de fondation carolingienne, il était prévu par les grands de ce monde d'avoir un monastère où des moines puissent prier et pour s'assurer de leur bonne arrivée dans le paradis et que vraiment le Seigneur les accueille bien. C'est ainsi qu'une communauté de frères s'est installée à Sorèze, dans un endroit très marécageux, au pied de la Montagne Noire, et assez rapidement, sous l'impulsion peut-être de Saint-Benoît d'Anian, les frères sont rentrés dans ce qu'on appelle le monde bénédictin. Jusque-là, ils avaient une spiritualité, mais rien ne faisait prévoir qu'ils seraient des bénédictins. Alors, les bénédictins suivent la règle de Saint-Benoît, hein, qui a vécu au 5e siècle, Saint-Benoît de Nursie, et très rapidement, le monastère s'est agrandi. Il a pris le nom de Notre-Dame de la Sagne. Il a été rasé plusieurs fois, chaque fois reconstruit, et l'abbaye dans laquelle nous entrons, ce qui reste de l'abbaye, c'est la 4e abbaye qui a été reconstruite au XVIIe siècle par Don Barthélemy de Robin. Sinon, la 3e abbaye avait été détruite par les guerres de religion en 1573, il ne restait, dit Don Martin, pas pierre sur pierre.
On y va ?
Donc il a fallu tout reconstruire et Louis XIII, qui voulait lui remettre l'ordre bénédictin et surtout la vie religieuse dans son royaume, a fait appel à un moine de Compiègne, qui était, il est dit dans les annales, un moine de grande qualité, qui était confesseur du roi et de la reine, et qui avait un certain patrimoine. Donc de Compiègne, ce moine est arrivé, et il s'est engagé, suivant ce qu'il avait promis à Louis XIII, de reconstruire l'abbaye. Et à partir de 1638, l'abbaye a été reconstruite, la première pierre a été posée en 1638. Et l'abbaye a été inaugurée en 1642. Et pendant ces 4 ans, Don de Robin a négocié avec les supérieurs de la congrégation de Saint-Maur pour que le monastère de Sorèze soit agrégé à la puissante congrégation de Saint-Maur. Donc le monastère de Sorèze et prend le nom de Notre-Dame de la Paix. Qu'étaient devenus les moines entre 1573 et 1638? Ils avaient fui puisqu'ils n'avaient plus de monastère et s'étaient réfugiés dans la montagne, parce que la montagne leur appartenait. Et que ce soit Grange-Vieille, Grange-Haute, le Grangeou, ces noms que l'on voit encore maintenant dans la forêt. Et une ou deux granges appartiennent maintenant à Oncalcat. Et les moines aussi ont proposé leur service à Dourne, et ils habitaient sous les couverts. Donc les couverts de Dourne sont assez anciens. Et ils assuraient même de payer leurs sous pour assurer la défense de la ville durant la nuit. Ils rendaient service aux paroisses de la Gardiole, de Saint-Avit, et ceci est très vérifiable dans les registres paroissiaux. Les moines à Sorez reviennent. Certains ne vont pas accepter la réforme, donc on les appelle les moines non réformés ou les anciens moines, tandis que les autres sont quand même les moines de la congrégation de Saint-Maur. En 1682, Don Odi, qui est prieur à cette époque, ouvre une école pour les jeunes enfants de Sorez. C'est vraiment la fonction des bénédictins. Un bénédictin est là pour apprendre ce qu'on appelle le comput, à lire, à écrire, à compter et à chanter. Ça, c'est la base de tout enseignement bénédictin. Et le premier élève qui va rentrer, c'est un petit enfant de Sorez, il s'appelle Jean. Son père était chirurgien, Jean de Vic. Et c'est lui qui va être l'auteur, avec Don Vécette, de la grande histoire générale du Languedoc, mais qui sera publiée qu'après la mort de Don de Vic. L'école va poursuivre son œuvre, donc vous voyez, on a déjà bien avancé dans les siècles, et on arrive au début du XVIIIe siècle, et il se passe un événement qui touche pas tellement Sorez, mais qui touche quand même le royaume, c'est la peste à Marseille. Cette fameuse peste où Monseigneur de Belzin, c'est l'archevêque de Marseille, va faire tout ce qu'il peut pour que la maladie ne s'étende pas dans le royaume. Mais les consulats sont quand même fermés, donc que faire des élèves? Alors, Don de la Ferrière, qui est prieur, lui, en 1722, va renvoyer les élèves chez eux par prudence. À cette époque, il fallait faire venir la charrette avec l'âne ou le cheval. Hein. Ce n'est pas dit dans les annales, mais ça se suppose. Et il n'y avait pas de voiture. Et pendant une trentaine d'années, les moines vont, ils sont à peu près une bonne vingtaine, ils vont employer tout ce qu'ils peuvent pour agrandir l'école. Dès 1763-64, on peut compter à peu près 200 élèves à l'école. Et en 1776, lorsque Louis XVI instaure les écoles royales militaires dans le royaume, il choisit 5 monastères de bénédictins pour accueillir des enfants. Pourquoi des bénédictins? Alors qu'il y avait déjà de l'enseignement qui était dispensé en France par des religieux. C'était les jésuites. Mais les jésuites n'avaient plus grâce ni aux yeux du roi ni aux yeux de personne. Donc les jésuites qui avaient déjà été expulsés d'Espagne sont expulsés maintenant de France. L'école royale militaire, tout de suite, a un très grand succès. Et sa notoriété dépasse les frontières locales, régionales, nationales et arrive jusqu'aux extrémités du monde, du côté de, en traversant l'Atlantique. C'est ainsi qu'en 1783, il y aura 17 pays dont les élèves seront présents à l'école. La difficulté de la langue est très vite résolue puisqu'on parlait le latin. Pas une importance capitale.
Puis viennent les heures troublées de la Révolution. Les ordres monastiques sont dissous et les écoles militaires supprimées. En l'an 4, un laïc, François Ferlu, rachète les bâtiments et tant bien que mal maintient l'école ouverte, toujours dans l'esprit du projet éducatif des bénédictins. Le français, les langues vivantes, les sciences, les arts, l'équitation, l'escrime, la natation sont enseignés. Néanmoins, en 1854, l'école est à l'agonie.
En 1854, l'école est à l'agonie, à peine une centaine d'élèves. Et quoi faire de ces bâtiments dont on pense qu'ils vont bientôt s'écrouler parce qu'aucun travaux n'ont été faits? Et il faut, en 1854, qu'il y ait une grande fête à Toulouse en l'honneur de Saint Thomas d'Aquin pour que les archevêques de Toulouse et d'Albi demandent au père Lacordaire, qui a toujours voulu s'occuper de la jeunesse et qui ne veut plus parler, ne veut plus faire de conférences depuis qu'il a restauré l'ordre dominicain en France, si vraiment ça ne lui sourirait pas de reprendre une église, une école, mais qui est en ruine. Et le père Lacordaire vient et il est pris par le charme du parc et ce qui est encore des bâtiments. Et le père Lacordaire va entreprendre de remettre l'école d'aplomb. Il y aura à sa mort en 1861 un peu plus de 260 élèves.
Vous disiez que pourtant les dominicains n'avaient pas une vocation à enseigner.
Oui, les dominicains n'ont pas une vocation à enseigner, mais ils ont été mis dans l'obligation d'accepter ce que le père Lacordaire voulait. Le père Lacordaire voulait s'occuper de la jeunesse, mais il n'a jamais enseigné. Et les dominicains de la fin du 19e siècle, pour le peu qu'ils étaient là, parce qu'ils n'ont pas été là beaucoup, n'enseignaient pas. Ils étaient surtout des censeurs, ils étaient des aumôniers, mais ils n'enseignaient pas. Les dominicains sont des maîtres de la parole. Ils enseignent la parole, ils enseignent dans les facultés, maintenant. À cette époque, il n'y avait pas l'Institut catholique, mais être dominicain, ça ne veut pas dire qu'on va enseigner. Un bénédictin enseigne. Et si on regarde un peu les monastères de bénédictins, il y a eu des écoles dans les monastères jusqu'en 1961.
Alors à ce moment-là, quel a été le projet quand même éducatif du père Lacordaire? Comment il conçoit sa mission? Est-ce qu'on peut parler d'éducateur à ce moment-là?
Le père Lacordaire est un grand éducateur et il s'appuie sur ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Il reprend exactement ce qu'a fait Don de Fougeras, ce qui a été continué par Don Despaux, mais il reprend ce qu'il a vécu au collège Saint-Michel de Dijon où il était quand il était enfant, et il remet à l'ordre du jour l'enseignement qui existe à Sorèze. Parce que tout en s'appuyant sur ce qu'ont fait ses prédécesseurs, il veut réactualiser, je dirais, le projet de ses prédécesseurs. Les cours ne vont plus être des cours magistraux comme autrefois. Il va y avoir ce qu'on appelle des classes. Et au XVIIIe siècle, le nom de classe était donné quelquefois à un petit groupe, deux ou trois élèves. Là, il va y avoir des classes. Il va y avoir un censeur. Il va y avoir des directeurs d'études. Et puis, chacun va être bien. Il va y avoir tout un organigramme, chose qui n'existait pas du tout chez les bénédictins. Bon, et puis, nous avons changé de siècle. Hein, on est au Second Empire, donc le père Lacordaire veut que son école soit une école modèle. Bon, il n'y arrivera pas tout à fait puisque son successeur, le père Mouret, va faire redescendre l'école. Il partira lui en 1875. Les dominicains reviendront, mais les dominicains vont subir les lois de Jules Ferry, donc ils n'ont plus le droit d'enseigner. Ils vont revenir un peu sans pouvoir enseigner et sans porter l'habit. Ça va être les lois de Valdec-Rousseau, les lois du Petit Père Combe, et les dominicains ne reviendront qu'en 1921. Sans porter l'habit dominicain, uniquement une soutane noire, et sans possibilité d'enseigner. Et les dominicains vont partir en 1978, date à laquelle des laïcs vont prendre la charge de l'école en disant qu'ils ont tous les pouvoirs et que vraiment ça va aller très très bien. Mais non, catastrophe, l'école est en faillite. Et en 1991, en septembre, l'école n'a pas le droit de rouvrir d'après les directives du rectorat de Toulouse.
Marie-Odile Munier, si vous voulez, nous allons à présent nous rendre pénétrer à l'intérieur de l'abbaye. Et alors là, nous franchissons le seuil et nous nous trouvons tout de suite dans la Cour des Rouges. Alors, vous me disiez que l'appellation, ce nom, Cour des Rouges, avait quelque chose à voir avec l'uniforme que portaient les jeunes gens.
Les élèves étaient, du temps du père Lacordaire, étaient repérés grâce à leur collet. Ils avaient un collet vert pour les petits, qu'on appelait la petite école d'ailleurs, un collet bleu, c'était les 6e, 5e, un collet jaune, 4e, 3e, et un collet rouge, les grands. Chacune de ces sections avait sa cour, sa salle à manger, son réfectoire, son dortoir. C'est ainsi que certains élèves ne sont jamais venus à la cour des rouges, parce qu'ils étaient trop petits, donc ils étaient relégués au cours des verts, elle se trouve dans le parc. À droite, à côté de la piscine. Alors, elle ne s'est pas toujours appelée la cour des Rouges du temps des Bénédictins, c'était la cour des Grands. Mais très vite, c'est devenu la cour des Rouges, et la cour des Rouges, c'est vraiment la belle cour. La cour des Bleus a repris forme ces deux dernières années, mais la cour des Jaunes, pour le moment, c'est une cour qui nous sert de chantier. Et bon, c'est très bien ainsi, il faut bien quand même qu'on puisse se mettre quelque part. Mais les uniformes, qui étaient des uniformes à partir du 19e siècle, des uniformes de couleur marron. Et à la fin du 19e siècle, les petites vestes sont des vestes qui sont cintrées. Et si l'on passe devant la vitrine des costumes, on voit ces vestes. Dès l'ouverture de l'école, Jacques Don de Audy avait voulu qu'il y ait un uniforme de façon à ce qu'on ne puisse pas faire de distinction entre les élèves. Puisque l'école était ouverte pour des pauvres gentilshommes, il ne fallait pas faire de distinction et il y avait déjà un uniforme.
Alors là, nous sommes toujours dans la cour des Rouges et sur les piliers, je vois des noms qui sont gravés. Alors, par exemple, je vois son pays, Cassagne, Mille, Le Maire, 1825. Ce sont des noms des élèves. Est-ce que ce sont eux qui les ont gravés?
Les piliers de la cour des Rouges sont un peu une des mémoires de l'école. Ce sont les noms des élèves qui étaient dans cette cour, qui étaient donc dans les grands. Alors, s'ils avaient une certaine capacité, ils gravaient leur nom. Et s'ils ne pouvaient pas, c'était les parents, surtout si les parents avaient de l'argent, qui faisaient graver le nom de leur enfant. Alors, c'est une tradition qui date de la fin du 18e, Si on va à Pont-à-Mousson, on a aussi des piliers où il y a des noms. Par exemple, le général Favier, le grand général de la guerre d'indépendance de la Grèce, a son nom sur un pilier. Ouais, et c'est resté cette tradition. Alors, c'est plus ou moins bien écrit. Il y en a qui sont très hauts, qui sont illisibles. Pour le moment, nous avons désiré que ces noms restent, sauf un ou deux où vraiment ça abîmait la pierre, parce que c'est une pierre très tendre, c'est la pierre de Saïs, donc il faut faire bien attention. Mais ça fait partie d'une des mémoires de l'école, hein, puisque quand j'avais préparé le premier colloque en 2000, j'avais été interviewé à Toulouse, et on m'avait demandé à la fin de l'interview, définissez Sorès en deux mots. J'avais été bien embarrassée, et c'était l'intelligence et la mémoire d'un lieu. Donc, l'intelligence, oui, parce qu'on a formé les grands généraux, des grands hommes, des polytechniciens, des magistrats, des hommes. Et puis, la mémoire. La mémoire, bon, alors, on a la Cour des Rouges, mais on en a tout du long de la Cour des Rouges. Il n'y a pas seulement sur les piliers. Il y en a sur les bords de fenêtres, il faut chercher. Il y en a aussi au bandeau de la Cour des Bleus, au-dessus de l'entrée de la salle des illustres. Il y en a dans la Cour des Arts. Et la mémoire, ben, il y a les bustes dans la salle des illustres. Ça, c'est un lieu de mémoire. Et puis, comme lieu de mémoire, dans le cloître, donc quand on est à l'hôtel et qu'on continue après la réception de l'hôtel, le cloître appartient au syndicat mixte, et tout le long du cloître, il y a les panneaux des élèves. Ces panneaux, au nombre de 135 planches, si je ne me trompe, donnent les noms des élèves qui ont fréquenté l'école. Il y a leur date d'entrée, leur date de sortie.
Alors là, Marie-Odile Meunier, nous sommes au sein de l'abbaye, et vous dites que c'était la quatrième construction, la quatrième abbaye. De quand date-t-elle? Moi, je vois un esprit très français, très classique français.
Cette quatrième abbaye, donc, construite par les Mauristes, 1638, c'est vraiment un très beau spécimen, surtout quand vous entrez dans la cour d'honneur, dans la cour du Père Lacordaire. Il ne faut pas appeler la cour d'honneur, parce que la cour d'honneur, c'est celle qui est à côté. On peut repérer dans l'abbaye-école trois périodes de construction. À la période du XVIIe, donc la cour Lacordaire, la cour d'honneur, et le pavage de la cour d'honneur avec ces petits pavés qui ne conviennent pas aux dames avec des talons. Ensuite, dans la cour des Rouges, la façade est qui donne sur la cour des Rouges, 17e, l'aile nord, l'aile sud, début 18e, et l'aile Saint-Martin, fin 18e. La chapelle, milieu 19e, parce que c'est 1844, et la salle des gardes et la salle des fêtes, 19e, deuxième partie 19e. Alors il y a le pavillon des hôtes, dans la cour Lacordaire, c'est un pavillon qui date du XVIIe siècle, parce qu'il servait de dépense. C'était là où on en rangeait l'huile, enfin, l'intendance, parce que ça a servi aussi de maison abbatiale. Quand l'abbé venait, mais l'abbé trouvait qu'il était mal logé, donc il s'est fait construire une maison abbatiale. Et elle se trouve encore dans la rue Lacordaire, il y a la maison de Don de Vic, qui est tout de suite, ça doit être le numéro 4, la maison abbatiale. Elle a gardé son nom.
L'abbaye école a donc définitivement fermé ses portes en 1991. Cependant, aujourd'hui, sous l'impulsion du syndicat mixte constitué de la région Midi-Pyrénées, du département du Tarn et de la ville de Sorèze, elle retrouve sa vocation de haut lieu culturel et éducatif et de pôle d'excellence, tant dans le domaine culturel que patrimonial ou spirituel.